Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato, versami il sangue, scavami un botro, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato. Bevi il mio sangue che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato. Ma è meglio sapere o non sapere, aver la conoscenza.
Divination, diseuse de bonne aventure, cartomancien et cartomancienne sont autant de termes qui renvoient à un imaginaire un peu facile, peuplé de roulottes, de boules de voyance et autres pendules divinatoires. Pourtant, au-delà des clichés, des imaginaires de pacotille, certaines personnes savent écouter, observer et se concentrer sur leur capacité de perception intuitive pour aider et guider ceux qui se trouvent englués dans des difficultés existentielles, des dispositifs relationnels complexes ou qui traversent des épreuves tragiques. Elles pensent avoir un don, ou tout du moins une aptitude à l'empathie hors du commun. Déjà Platon, dans le Phèdre, précisait que l'art divinatoire, la divination intuitive, avait rendu de fiers services à la Grèce. Platon écrit que, prophétesse de Delphes et prêtresse de Dodone, en usant d'une divination inspirée, ont donné à nombre de gens, par nombre de prédictions, la droite direction en vue de leur avenir. Tout se passe comme si deux courants, celui de la sagesse mesurée, et celui du débordement, de l'ivresse, traversait l'esprit humain. Le tarot est l'instrument par excellence de la cartomancie. Le tarot de Marseille exerce depuis des siècles un véritable pouvoir de fascination. Nombreux sont ceux également qui récusent ce pouvoir d'attraction et ne voient qu'un vulgaire jeu que d'habiles manipulateurs utilisent pour berner des clients naïfs. Mais les 22 figures d'atout du tarot posent des énigmes que nous sommes loin d'avoir résolues. Que signifient ces figures symboliques ? Qui les a créés, quand, pour quelles raisons? J'ai rencontré Élodie qui pratique le tarot. À travers sa propre histoire et son parcours personnel, elle nous explique que ces cartes sont source d'un enseignement ésotérique d'ancienne sagesse.
Je m'appelle Élodie, je travaille comme experte gémologue et également tarologue.
Sapere il mio destino, come già deve compiersi.
Comment tu définirais cette activité?
Alors, j'ai beaucoup de mal d'ordinaire à présenter mon activité, à la définir. Tout simplement parce qu'elle est à mi-chemin entre forme de ce qu'on pourrait appeler voyance, divination et une forme de thérapie.
Conosci-le, puoi scordalo, bevi di questo lete.
J'utilise en fait les tarots non pas principalement comme instrument de voyance, mais comme outil de connaissance de soi, d'exploration de soi et en particulier de l'inconscient de la personne. Je procède à plusieurs sortes de tirages et ces tirages vont parler essentiellement des ressources que la personne peut, que le consultant peut mettre à profit pour tirer parti de ce formidable potentiel qui est le sien pour résoudre lui-même ses propres problèmes. Et c'est en cela que ça se différencie beaucoup des consultations de voyance qui elles sont surtout basées sur des échanges type questions-réponses. La personne vient avec une demande très spécifique, souvent chargée d'anxiété, et recherche une réponse, une date, une heure à laquelle tel événement va se passer. Et d'une certaine façon, en, en demandant une réponse, la personne parfois perd de vue, on va dire, sa responsabilité, sa part de responsabilité dans les processus de changement qui peuvent les amener à trouver des solutions à leurs difficultés. Voilà, dans mes consultations, j'essaye, lorsque j'ai des intuitions spécifiques concernant ce qui peut se passer dans la vie d'une personne, ben, de les renseigner, de leur donner ces informations, mais j'essaye aussi surtout de les amener à travers l'exploration de tout l'imaginaire que recèlent les tarots, à parcourir toutes les ressources de leur inconscient et à leur permettre de tirer d'eux-mêmes partie de toute leur toute la richesse intérieure dont ils sont dotés, qui vont leur permettre d'évoluer. J'utilise autant ce que j'appellerais mon intuition, que les cartes. Certaines figures peuvent me parler énormément lorsque je suis en interaction avec une personne et que je tire une carte et que c'est établi une connexion entre le consultant et moi.
Depuis combien de temps tu tires les cartes ?
Alors, j'ai commencé à tirer les tarots de manière... au départ, de manière totalement à titre gracieux, hein, vers l'âge de 14-15 ans.
Ah oui. Tu as été initiée par quelqu'un ?
Oui. En fait, dans l'enfance, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai fait quelques rêves prémonitoires, eu quelques intuitions qui par la suite se sont vérifiées, alors que je ne pense pas que j'avais les moyens d'avoir connaissance de ce qui de certains événements qui allaient se produire. Et ma grand-mère maternelle qui était herboriste et qui dans l'arrière-boutique pratiquait toutes sortes de soins de guérison par l'imposition des mains, tirait les cartes et elle avait, je pense, accès à des espaces du psychisme auquel tout le monde n'a pas forcément un accès très aisé, très direct, a plus ou moins remarqué que quelque chose en moi essayait de s'exprimer, de s'éveiller et de se connecter à une dimension un petit peu transpersonnelle. Elle n'avait pas vraiment la connaissance ni en analyse jungienne, ni en psychologie transpersonnelle, elle avait, je pense, un sens de la, une énormément d'intuition, énormément d'une compréhension très, très immédiate, à la fois très simple, très globale, très immédiate du monde qui l'entourait. Elle ressentait les gens, les choses comme personne.
Et sûrement un sens de l'observation.
Un grand sens de l'observation aussi, oui. Mais c'est une compréhension très, très immédiate, très intuitive, qui ne passait en tout cas ni par le langage, ni par la pensée logique, analytique. Et donc, elle s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour m'enseigner la pratique des tarots, sachant que...
Tu avais quel âge, pardon, tu avais quel âge ?
J'avais 6 ans. Effectivement, moi, elle pensait que ça pouvait me permettre de canaliser ses intuitions, de ne pas les vivre de manière trop anxieuse. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir accès à cet apprentissage à ce moment-là.
Comment ça se passe, une séance ?
Alors, c'est très variable. D'abord, bon, en termes de... C'est très variable selon la personne qui se trouve en face de moi et sa demande.
Mmh. Déjà, concrètement, ça se passe comment? Tu te déplaces chez les gens, ou ils viennent chez toi,
c'est... Sur le plan de la durée de la consultation, je pratique surtout, sauf demande très spécifique, des consultations complètes. Ce que j'appelle consultations complètes, ce sont des consultations durant lesquelles je prends vraiment le temps de brosser le tableau le plus complet de tout ce qui peut concerner la personne et son évolution à l'instant où elle me consulte. Ça me prend à peu près, selon le besoin, de parler de la personne, ce que je vais pouvoir lui renvoyer aussi, la forme que va prendre l'interaction, entre 45 minutes et 1h30. Je me déplace souvent à domicile.
Tu préfères?
Je préfère, j'aime bien, parce que bon, ça me permet aussi en entrant dans un espace
privé,
plus privé, ça me permet évidemment d'observer beaucoup plus de choses, de donner un sens à mes intuitions et par la même occasion de préciser mes interprétations.
Et d'observer, finalement, j'ai l'impression que le sens de l'observation est très, très, très important.
C'est très important.
Parce qu'on imagine plutôt cette activité qui se passe chez la personne qui tire les cartes. Moi, j'imaginais ça plutôt comme ça, mais le fait de se déplacer chez les gens, je trouve que c'est... je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais je trouve ça... C'est intéressant.
La plupart des personnes qui souhaitent consulter des médiums ou des cartomanciens ont aussi besoin de quelque chose qui les fasse rêver, qui les sorte un petit peu de leur d'un univers un petit peu trop matérialiste dans lequel ils ne se retrouvent pas complètement. Il y a un besoin accru d'évasion, mais dans ce besoin accru d'évasion, il y a parfois aussi un besoin de fuite de la réalité. Et le fait de dire à un client, à un consultant, je n'utilise pas que des facultés d'intuition qui ne sont pas forcément compréhensibles par les ressorts habituels, parfois ça les met mal à l'aise.
Parce qu'ils s'attendent à autre chose.
Ils s'attendent à autre chose.
Il y a un certain nombre aussi de préjugés.
Ça brise le rêve, ça brise la magie. Oui. Mais
la magie, elle est ailleurs, en fait.
Voilà. Je crois qu'on peut, trouver de la magie dans des milliers de choses, des milliers de manières de comprendre, de percevoir l'être
humain. Oui, c'est pas forcément la diseuse de Bonaventure dans sa roulotte.
Voilà,
je caricature, mais c'est à peu près ça.
Je crois que dans une consultation de tarot, je mets une grande part d'observation, de mentalisme, de psychologie et une grande part également d'intuition, de savoir-faire, d'un petit quelque chose que je n'explique pas toujours. Mais voilà, il y a énormément de processus qui participent moi ça me plaît.
Et si on revient aux cartes elles-mêmes, parce qu'il y a quand même un support, et le support c'est le tarot, est-ce que tu peux me dire, par exemple, les cartes qui t'intéressent le plus, celles qui ont un sens tout particulier pour toi?
Les deux qui me parlent le plus, sans doute, sont l'étoile. L'étoile qui a pour moi... vraiment quelque chose qui représente quelque chose à la fois très C'est paradoxal, c'est à la fois très, très mystérieux, c'est très, très discret. Une étoile, c'est bon, une immense quantité de lumière, d'énergie, mais finalement, c'est beaucoup moins visible que le soleil dans le ciel. Ça peut être perdu dans l'obscurité, ça peut être caché par des nuages. Mais bon, avec une brillance, une intensité très particulière. C'est à la fois ce qui est discret, ce qui est caché, mais ce qui éclaire aussi.
C'est ça, l'étoile, de clarté. Hein, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'il y a ça dans c'est intéressant ce que tu me dis, parce que dans l'étoile, il y a le côté lumineux, mais il y a aussi le côté caché. Et je trouve que ça évoque bien ce que tu es. Il y a une dimension comme ça, un peu qui est lumineuse, qui est souriante, etc. Mais il y a aussi beaucoup de réserve. Et...
Merci. Cet arcane, cet archétype contient une quantité, une densité de créativité, je crois, exceptionnelle, très forte. On va dire dans la plupart des cultures, des anciennes civilisations, bon, je vais prendre comme exemple les civilisations indo-européennes, parce que j'étudie le sanskrit en ce moment, l'étoile, ça se dit Tara en sanskrit. Mais dans ce qui a donné star, estrella,
Esther, oui, et ça veut dire ça aussi en hébreu, hein.
Aussi.
Il y a ces deux dimensions, c'est l'étoile, mais ça veut dire aussi caché.
Mais ce qui rejoindrait l'idée à laquelle je souscris, qui est que finalement l'univers de langue, de sens. Des cultures sémites n'est pas si éloignée que ça des cultures indo-européennes, et qui restent sans doute une racine commune datant du fond des âges, même si on n'a pas retrouvé vraiment des langues encore des langues communes, mais je crois qu'il y a vraiment des univers sémantiques qui se correspondent au-delà des disparités grammaticales. Bon. On retrouve en fait l'idée de lumière, mais on retrouve aussi l'idée de conduire, de guider, puisque bon, dans le mot Tara, dans la racine Tar, sanskrite, c'est une racine en fait qui sert à composer des verbes qui veulent vraiment dire guider, projeter vers, donner un sens à la marche vers quelque chose. C'est vraiment un arcane, un symbole qui relie la lumière à un mouvement.
Parce qu'en fait, les arcanes, donc, ce sont des archétypes, des symboles.
En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les tarots. C'est que c'est... on ne sait pas d'où viennent les tarots. Certains vont postulent que c'est l'origine d'attrait de l'Égypte antique. D'autres pensent que les arcanes majeurs auraient été inventés par les Hébreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de correspondances, par exemple, entre la Kabbale et les arcanes majeurs, par exemple. D'autres pensent qu'il viendrait d'Inde, les arcanes mineurs par contre viendraient de Chine. Bon, ce que je crois finalement, c'est que les tarots représentent tout un panel de figures, de représentations imaginaires issues de l'inconscient collectif et qui sont présentes depuis les premiers âges de l'humanité et qui structurent en profondeur le psychisme de l'être humain.
Et qu'on retrouve finalement...
Et qu'on retrouve dans toutes les cultures, sous des formes différentes
mais il y a quand même probablement des racines communes. Quoi.
C'est là que ça prend un sens spirituel.
Et la deuxième carte, donc, tu m'as parlé de carte.
C'est le monde. Tout simplement. C'est une... tout simplement parce qu'elle elle est ce qui c'est le pont entre l'unité et la diversité. La connexion entre tous les individus, l'idée finalement l'idée d'interdépendance entre tous les êtres, entre toutes les choses.
Est-ce qu'il y a cette idée aussi, me semble avoir lu ça quelque part, d'imbrication entre microcosme et macrocosme?
Tout est relié, tout est interconnecté et tout s'imbrique.
Et donc il y a cette idée-là dans cette arcane.
Tout à fait. Ce que j'aime dans le monde, c'est que c'est vraiment celle qui fait sortir, ce qui extrait l'individu de la manière la plus visible de l'univers psychique pour la connecter à quelque chose qui dépasse. Ça extrait finalement l'être humain d'une vision psychologisante.
Et auto-centrée.
Oui, auto-centrée. On sort du domaine de la psychologie pour entrer dans celui de la métaphysique, de la spiritualité, je n'aime pas trop ce mot, mais oui, c'est la carte métaphysique par excellence.
D'après toi, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit prédire l'avenir?
Ça, c'est une question intéressante. Alors, je crois pas. Je crois pas qu'il faille donner à un consultant, un client. Bon, après, ce ne sont que mes convictions, ma conception à moi, mais je ne veux pas donner à un client l'illusion que sa destinée, qu'il existe une destinée qui serait toute tracée, que quelque chose serait forcément écrit. Je rejoins plus en fait quand la conception selon laquelle, un petit peu comme quand certains grands sages indiens, certains yogis disent tout est écrit, nous on croit que tout est, qu'ils sont en train de dire tout est écrit dans, un petit peu parfois dans la Grèce antique, certains le croyaient, tout être humain possède une destinée, il y a un plan comme ça qui serait établi d'avance, mais c'est pas du tout ces sages, ces yogis, quand ils s'exprimaient, disaient, c'était pas du tout ça. Quand ils disaient c'est écrit, ils parlaient d'une écriture dans le présent, que ce qui est, ce qui se passe ici et maintenant ne peut pas se passer d'une autre manière. Ça rejoint l'idée d'enchaînement, de causes, de conséquences, de loi du karma, de choses très...
C'est une sorte de nécessité.
Ça n'est ni le hasard ni la nécessité. C'est je dirais pour simplifier, c'est entre les deux. C'est ce qui est là, rien n'aurait pu se passer autrement, mais tout est possible. Il y a une ouverture à l'infini des possibles à laquelle je crois dont on ne peut pas rendre compte quand on dit à un client ça va se passer comme ci, comme ça, à telle date vous allez rencontrer l'amour de votre vie, et puis rassurez-vous, non votre mari va pas vous quitter. Je crois que c'est un petit peu dangereux. C'est dangereux pour deux choses, parce que d'abord, quand quelqu'un croit que tout est tracé, tout est écrit d'avance, et que quelqu'un a le pouvoir de lui dire ce qui va se passer, il va s'en remettre un peu à lui comme un enfant. C'est infantilisant, complètement déresponsabilisant. Il y a peut-être finalement quelque chose de malsain qui peut s'instaurer, un jeu de manipulation, pas seulement de la part du voyant en question, mais même de la part du consultant aussi, parce que le voyant peut en profiter de manière lucrative. Bon, bah, oui, bien sûr, mais bien sûr, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais oui, vous allez le rencontrer, bon, mais... bon, vous allez me reconsulter, hein, par contre, comme ça je vous en dirai un petit peu plus. Bon, ça c'est la manipulation du côté du voyant. La manipulation du côté du consultant, elle est moins visible, elle est plus subtile, mais elle existe. C'est rassurez-moi, dites-moi ce que je veux entendre, sinon je vous laisse tomber. Dites-moi, faites-moi croire que vous avez en votre possession quelque chose qui peut changer ma vie, qui me dispenserait d'un travail sur soi, qui me dispenserait de... C'est pour ça que c'est peut-être un peu snob de le dire, mais je refuse de prendre en consultation des personnes dont je ne sens pas qu'elles ont une volonté consciente de travailler sur soi. Je crois que c'est vraiment très dangereux de prédire l'avenir au sens strict du terme. Ça ne m'empêche pas d'avoir des intuitions, des formes de prémonitions parfois sur certaines choses qui sont susceptibles de se passer. Souvent on va dire que ça concerne plutôt un avenir proche. Ça peut concerner un avenir lointain parfois, mais c'est dans ce cas, quand ça concerne un avenir plus lointain, j'avoue que c'est aussi certaines observations et réflexions entre-temps. Dans un avenir lointain, j'évite de donner des dates précises.
Mais toi, tu as ce qu'on pourrait appeler un don. Tu penses que il t'est déjà arrivé d'avoir comme ça des intuitions concernant un avenir plus ou moins proche, concernant une personne. Ça t'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Ouais.
Ça m'est arrivé. Ouais. Et ça m'arrive très souvent durant certaines consultations. Après, bon, parfois, ça peut arriver que ça n'arrive pas du tout. c'est très variable. Chez moi, ça dépend aussi beaucoup de mon état physique, énergétique, émotionnel. Si j'ai pas dormi de la nuit, ça sert à rien à ce moment-là, je vais me baser beaucoup plus sur mes tarots. C'est tenté que je sois un minimum réveillée ou sur un sens de l'observation, sur mes intuitions, mais bon, il n'y aura pas ce petit plus que je n'explique pas.
Et les personnes que tu visites, on va dire, en fait, ont des demandes de quel ordre, hein? Comment on pourrait les... C'est très très variable, mais finalement ça revient toujours.
J'ai eu de tout. J'ai eu des demandes très, très originales, auxquelles d'ailleurs je ne pouvais pas répondre. c'est celle qui, la plus récente qui me vient en tête. J'ai reçu un coup de fil comme ça un jour. Bonjour madame, c'est fréquent, hein. Beaucoup appellent des tarologues, des médiums entre guillemets pour ce genre de choses. Je voudrais que vous veniez chez moi. Mon mari qui est décédé depuis 10 ans n'arrête pas de casser des assiettes la nuit. Oui, mais encore. J'aimerais bien que vous lui parliez. En général, comme c'est pas du tout mon domaine. En l'occurrence cette fois-ci, j'ai répondu à la personne, à la consultante. Je suis désolée, mais c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire. La personne voulait en savoir plus, alors oui, mais pourquoi? Mais vous êtes médium, et qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez peur, c'est ça? Puis au bout d'un moment, bon, comme je n'avais pas très envie d'en rendre des comptes, je lui ai répondu, tout simplement parce que je suis tarologue, pas comédienne. À ce moment-là, la batterie en plus, elle est coupée. Donc ça faisait un petit peu sec. J'ai rappelé, je lui ai dit, bon écoutez, voilà, c'est pas de mon domaine, mais moi je peux vous proposer quelque chose qui peut être tout à fait intéressant dans la période que vous vivez et qui peut vous permettre de vivre cette expérience tout à fait différemment et d'engendrer des changements non seulement autour de vous, dans votre environnement, mais en vous. Bon, voilà, ça c'est le genre de demande auquel je peux avoir à faire. Après, bon, d'autres demandes, bon, ce sont des demandes comme de stricte voyance. Bon, dites-moi ce qui va se passer dans ma vie, dans mon avenir. À ce moment-là, j'essaie toujours de réorienter la personne sur ce qu'elle est en train de vivre dans l'instant présent, les ressources qu'elle a à sa disposition et les changements qui peuvent se produire. Et puis bon, bien entendu, si j'ai des perceptions, des intuitions spécifiques concernant ce qui peut se passer dans sa vie, je vais les exprimer aussi. Pour d'autres personnes, c'est carrément un travail de coaching. Les personnes vont vraiment avoir une demande très spécifique concernant des changements dont ils voudraient bien qu'ils se produisent dans leur vie. Ces personnes-là, par contre, ont en général un plus grand besoin de contrôle dans leur vie. Souvent, le but, ça va être dans un premier temps de les aider à lâcher prise sur certaines... Ça va être un petit peu le travail contraire. Pour d'autres personnes, ça va être vraiment un travail de thérapie. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Et qui est là, moi, je me base autant sur un travail sur les archétypes, sur l'inconscient, que sur ma propre expérience de vie, sur mon intuition, ça c'est un travail aussi que je ne peux pas faire avec tout le monde. Je sélectionne beaucoup, en fait. C'est un peu snob aussi de le dire, mais je sélectionne beaucoup ma clientèle. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je sens que je ne peux pas faire répondre à leurs demandes, il ne va rien se passer. Des personnes aussi, quand je sens que la problématique est vraiment très très lourde, qu'il y a quelque chose soit d'un petit peu malsain, soit de pathologie, on va dire, très très intense et très difficile à gérer sur le plan émotionnel, je vais plutôt les renvoyer vers des psychiatres ou des psychologues.
Oui, quand il s'agit de problèmes plus pathologiques, on va dire.
C'est certaines personnes, par exemple, qui me disent j'entends des voix tous les jours, toutes ces personnes n'ont pas un déséquilibre, une pathologie psychiatrique. Je suis allée récemment à Paris à un congrès avec Alexandre, très intéressant sur les hallucinations, les états modifiés de conscience. Je sais que certaines personnes peuvent avoir toutes sortes de perceptions, se trouver dans des espaces de leur propre psychisme qui sont complètement différents de ceux qui caractérisent l'état d'éveil conscient, fonctionnel, on va dire, dans le quotidien. Toutes ces personnes ne sont pas forcément atteintes d'un problème, d'une pathologie psychiatrique, mais pour certaines, c'est quand même flagrant, c'est quand même évident quand on sent qu'il y a quand même une idéation très persécutoire, une souffrance psychique énorme à la clé, certaines thématiques qui se répètent de manière obsédante. Bon, là, en général, bon, je conseille des professionnels qui seront plus adaptés pour répondre, pour les accompagner. Voilà.
Donc, toi, tu t'épanouis dans cette activité actuellement
Actuellement, oui. C'est vraiment. En fait, je m'y épanouis depuis très longtemps. C'est vrai que durant certaines périodes de ma vie, ça n'a pas été toujours très évident pour deux choses. D'abord, sur le plan familial, cette activité-là est un peu taboue. Moins mon entourage familial en entend parler, mieux il se porte. C'est pas quelque chose qui... Donc durant très longtemps, j'ai eu beaucoup de difficultés à assumer. J'avais même peur de mettre une plaque devant chez moi. Mmh. Parce que, bon, à une époque, je consultais vraiment qu'à domicile. J'avais vraiment peur que ma famille proche sache que c'était quelque chose d'extrêmement dévalorisant, même dégradant.
Alors que c'est quand même ta grand-mère qui t'a initié à ça.
Oui. C'est très très compliqué parfois d'être hypersensible, de mobiliser des facultés d'empathie, d'intuition, d'être perméable à toute la vibration de l'autre.
Parce que c'est aussi difficile pour toi, en fait.
Ça peut être difficile et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et parfois, on peut mettre de nombreuses années, voire des décennies, à apprendre à gérer ça. Avec l'empreinte psychique de la personne, avec tous ses fonctionnements, ses dysfonctionnements aussi. Alors, à une époque, ce que je faisais, c'était que je prenais une douche. Après certaines consultations dans lesquelles je ressentais vraiment toute la souffrance, toutes les problématiques, parfois même familiales, transgénérationnelles.
C'est comme si en fait il n'y avait pas de filtre, donc ça permet d'avoir accès complètement, directement, spontanément aux autres, mais en même temps, il y a aussi... toute la souffrance
tout à fait.
Qui est difficile à supporter, quoi. Puis parce que tout est là finalement,
tout est là
de l'autre, et comme une empreinte sur toi.
C'est exactement ça. Gérer tout ça sur le plan psychique, émotionnel, c'est vraiment un jeu d'équilibre constant. Il faut maintenir la porte ouverte. Il y a certaines parties de soi qu'il faut savoir ne pas protéger et d'autres qu'il faut savoir protéger. Il faut arriver à jongler avec ça.
Merci beaucoup, Élodie.